une vue d'ensemble de l'actualité.
S'il y a eu une erreur de bonne foi, si on veut, si le médecin le reconnaît, s'il a fait tout ce qu'il pouvait, ben effectivement, les gens sont prêts à passer l'éponge. Et je dis souvent aux étudiants en médecine, soyez gentils avec vos patients parce que vous allez faire des erreurs et vous allez apprendre de ça, mais il faut quand même bien faire ça, même quand on fait des erreurs avec les familles, avec les patients.
Alors, c'était le docteur Alain Vadeboncœur hier, donc, qu'on interviewait sur le cas de ce résident de Lévis. Écoutez, il a 47 ans. Et puis, il subit une coloscopie qui révèle deux lésions cancéreuses. Sauf que ça a pris 19 mois au système de santé, à l'hôpital, à son médecin, à la clinique. Ça a pris 19 mois avant qu'on l'informe qu'on avait découvert un cancer du côlon. Alors là, il poursuit pour plus d'un million de dollars. Et son avocat, c'est Maître Jean-Sébastien Damour, donc qui est spécialisé en droit médical chez Tremblay-Bois. Bonjour, Maître Damour.
Oui, bonjour, Monsieur Drainville.
D'abord, vous poursuivez pour un million. Comment vous défendez d'abord votre poursuite, là? L'argumentaire, mettons, là.
Oui, ben c'est une histoire très triste, en fait, ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Alors, on parle d'un patient qui a consulté son médecin et dans le cadre des consultations, il y a eu une coloscopie virtuelle qui a été prescrite. Par la suite, le patient a subi son examen et lui-même, ensuite, il a été sans nouvelles pendant une période quand même importante et il a appelé lui-même à la clinique pour avoir du nouveau et on lui a dit que tout était beau. Donc, évidemment, ensuite, il n'y a pas de suivi additionnel qui a été fait. Et là, par hasard, lors d'une échographie, un médecin l'informe qu'il y avait eu un examen qui avait été fait 19 mois plus tôt qui révélait un cancer. Donc, c'est comme ça qu'il a appris qu'il souffrait d'un cancer. Et bien entendu, les traitements ont été initiés en urgence, mais déjà à partir de ce moment-là, le cancer avait grandement évolué. Donc, ça a causé des dommages très, très importants à toute la famille. Alors, au niveau de la réclamation comme telle, d'un dossier à responsabilité médicale comme celui-là, ce qui est visé, en fait, c'est l'indemnisation de la victime, l'indemnisation du patient et des proches. Donc, on regarde, c'est quoi la conséquence de l'erreur comme telle ou de la négligence? Alors, dans un cas comme celui-ci, bien, on regarde quelle aurait été la situation si le cancer ou la maladie avait été traité au moment opportun. Et là, on regarde la conséquence. Donc, évidemment, toutes les pertes de revenus, évidemment, l'espérance de vie qui est diminuée, ça, c'est un des dommages les plus importants donc qu'on peut vivre comme victime. Toute la souffrance, la douleur, les traitements très invasifs qui peuvent être initiés et toutes les conséquences là, que le cancer a eues.
Est-ce qu'on doit comprendre que le cancer s'est propagé?
Oui, ben en fait, c'est un cancer qui a pris de l'expansion, qui a envahi d'autres structures. Donc, il y a eu des chirurgies beaucoup plus invasives qui ont été nécessaires. Dans ce cas-ci, il y a eu notamment de la chimiothérapie qui n'aurait pas été nécessaire si ça avait été pris à temps.
Est-ce que la vie de votre client est en danger?
Malheureusement, oui. C'est le genre de cas dramatique où l'espérance de vie change. En fait, on part d'un pronostic très favorable si ça avait été pris à temps à un pronostic beaucoup plus sombre aujourd'hui.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui s'est passé, Maître Damour? L'information n'a pas circulé correctement. Est-ce qu'on sait où est-ce que ça a bloqué? Est-ce qu'on sait qui l'a échappé?
À ce stade-ci, malheureusement, il y a des informations qui vont rester à découvrir, mais il faut savoir que dans un cas comme celui-ci, il y a deux obligations qui incombent tant aux médecins qu'aux hôpitaux et au système de santé en général. Donc, un médecin traitant, un médecin de famille, un médecin spécialiste qui va prescrire un examen a l'obligation de suivre le résultat de l'examen qu'il a prescrit. Donc, comme médecin, on ne peut pas simplement prescrire un examen et ne pas recevoir le résultat, ne pas suivre le résultat pour s'assurer, évidemment, que son patient va recevoir les soins qui sont requis si jamais l'examen n'est pas normal. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a aussi l'hôpital et le système de santé. Donc là, on va parler plus du personnel administratif, de la chaîne de circulation et de communication entre les différents intervenants, parce qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, qu'un résultat ne se rende pas à un médecin. Donc, quand on a un résultat qui n'est pas communiqué à un médecin, on est en présence, je dirais, de deux négligences, c'est-à-dire qu'il y a le médecin qui n'a pas suivi son examen, et il y a également l'administration qui n'a pas fait parvenir le résultat au médecin traitant.
Oui, mais là, le médecin, il ne peut pas faire le suivi s'il n'est pas au courant du résultat de l'examen. Ce que vous dites, vous, c'est que c'était à lui d'aller chercher, s'il ne l'avait pas obtenu, le résultat de l'examen qu'il avait prescrit, il devait s'assurer d'aller le chercher pour voir ce qu'il y avait dedans. Hein? C'est bien ça?
Mais effectivement, parce que c'est le médecin qui l'a prescrit. Donc, on parle d'un médecin qui va demander qu'un examen soit effectué. Okay. Et on ne peut pas, comme médecin, simplement prescrire un examen et ne pas s'assurer qu'un suivi adéquat soit fait ensuite auprès de son patient.
Ah, je vais vous dire, je trouve ça tellement dramatique, le maître d'amour. Là, je me mets à la place de ce monsieur-là. Là. Écoute, c'est incroyable parce que tu te dis, ça se peut que le cancer m'emporte parce que il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail ou qui a mal fait son travail. Je vais vous dire, 1,1 million, hein, c'est ça que vous demandez?
Oui, c'est 1,15 million. Cependant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la motivation première de mon client, c'est même pas l'indemnité, même si ça demeure quelque chose d'important, là, ça demeure de faire une démarche pour s'assurer que les choses changent. Parce qu'on se rend compte en pratique que de faire une demande d'indemnisation de ce type-là, ça peut entraîner souvent des changements au niveau des façons de faire, au niveau des systèmes, pour s'assurer là, que la communication des résultats soit beaucoup plus sécuritaire à l'établissement où c'est survenu. Puis il faut garder à l'esprit aussi que quand il y a une demande comme ça en responsabilité médicale qui est intentée, on ne dit pas qu'il y a il n'y a personne ici qui a voulu ce qui s'est passé, ça c'est certain. On est vraiment dans une situation où malheureusement il y a eu une négligence. Maintenant, il faut se demander qui doit supporter les conséquences. Mm-hmm. Et dans le système au Québec, en présence de négligence médicale, mais en fait, c'est les assureurs des médecins, les assureurs des hôpitaux qui indemnisent les victimes. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a un système qui protège le public des conséquences d'une erreur médicale.
Là, je vais vous demander de m'appeler au 790-9850 ou encore de m'écrire 98985, Drainville à commercial 985fm.ca, pour me dire, est-ce que vous avez déjà été victime d'une erreur médicale ou est-ce que peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'une erreur médicale? Juste pour me raconter peut-être comment ça s'est passé, est-ce que vous avez obtenu une indemnité? Si ça vous tente de témoigner, ce serait un bon moment de nous appeler. Là, on va pouvoir entendre quelques témoignages. Comment est son moral à votre client, maître d'amour? Comment est le moral aussi? Est-ce qu'il a des enfants?
Oui, en fait, il y a deux enfants qui sont également partis à la demande parce que c'est sur toute la famille que les conséquences se rapportent. Vous comprendrez qu'une situation comme ça a un effet dévastateur sur leur moral.
Ils ont quel âge, les enfants, maître?
Oui, en fait, c'est des enfants qui sont majeurs. Là, aujourd'hui, on parle de deux jeunes filles qui ont respectivement là, en fait 17 et 19 ans, là, si ma mémoire est bonne.
Et il y a la conjointe, évidemment, hein, qui doit bien vivre entendu. Avec ça. Est-ce qu'il a le moral quand même, votre client? Est-ce qu'il a parce que tu sais, tu te dis je suis une victime, là, je suis vraiment une victime, là. Mais il faut quand même que je réussisse d'une certaine manière à surmonter ça, puis à aller chercher en moi l'énergie pour me battre, là, tu sais, pour battre le cancer, là.
Tout à fait. Mais en fait, le moral est atteint, mais ce qui tient beaucoup mon client, c'est qu'il désire que les choses changent. Il fait ça pour pas que ça arrive à d'autres personnes. Il est très impliqué, d'ailleurs, dans le milieu de la santé pour ça, pour avoir un changement positif. Et je pense que c'est ça qui l'anime au quotidien.
On me dit qu'on a des appels, maître Damour. Alors, le temps de vous remercier. Jean-Sébastien Damour, donc avocat spécialisé en droit médical chez Tremblay-Bois. Ben, je vous dis bonne chance, maître Damour. Je vous dis bonne chance.
Merci, au revoir.
C'est Normand qui nous appelle. Bonjour, Normand.
Bravo. Bonne émission, mon cher.
Merci, on vous écoute, mon cher.
Oui, moi, j'ai eu ça à vivre là, une douzaine d'années. Mon père est décédé du cancer de la prostate. Et à cette époque-là, il avait été à l'hôpital juif, je pense, pour donner suite. Puis il s'est ramassé à l'Annonciation. Il est rendu à l'Annonciation. Ma soeur arrivait de l'extérieur, elle venait de faire le tour du monde. Je dis, on va aller voir papa, puis je sais pas combien de temps il reste à vivre, tu sais. Et puis quand on arrive là, j'aperçois mon père comme le Olivier Guimond dans ses annonces de 50, avec le pouce en l'air. Ouais, je dis, tant mieux, je m'attendais pas à ça, pas tout. Et il a tombé des mains de mon docteur, il dit, qu'est-ce que j'ai comme dossier avec le patient qui est devant moi? Il dit, ça fait pas ensemble. Il a donné ça à mon père, puis on était capable d'avoir mon père pendant un an et demi. Allez.
Comment?
Mais c'est juste pour dire. Un an et demi de plus.
OK, donc c'est quoi? C'était un mauvais diagnostic?
Oui, c'était un mauvais diagnostic.
Il s'était trompé? Votre père n'avait pas un cancer?
Mon père avait un cancer, mais il avait, comment je veux dire, les reins fonctionnaient plus. Il a demandé à mon père, ça te tente-tu de donner suite? Si je vous donne, pas de problème, je suis là pour ça, moi. Puis mon père est retourné à l'hôpital, puis après ça, on l'a eu encore pendant un an et demi. Il a pas récupéré, mais ils ont dit que c'est un cancer qu'il mangeait lentement. On l'a perdu, ça va faire 12 ans. Ça fait
donc, dans le fond, la situation qu'on vous avait d'abord décrite n'était pas aussi grave. C'est pour ça que... Oui, ouais, OK. Ben écoutez, au moins, dans votre histoire, Normand, vous avez pu le garder plus longtemps que prévu. Dans le fond, c'est ça, la morale de l'histoire.
Oui. Mais s'il n'avait pas tombé sur un bon docteur, il regarde ça, puis c'est ça, puis il reste quelque temps à vivre, c'est tout. T'as pas le même mental et le même moral.
On s'entend. Merci, Normand, pour l'appel.
Bye-bye.
On s'en va rejoindre Catherine maintenant. Bonjour, Catherine.
Oui, bonjour, M. Trimbille.
Je vous écoute.
Moi, j'ai été opéré une simple chirurgie pour des pierres au foie en fin juillet, l'été dernier. Et jeudi passé, il y a une secrétaire médicale qui me téléphone en me disant c'est pour un suivi avec docteur.
Pas nécessaire de la nommer, ça va.
Non, c'est ça. C'est pour un suivi pour votre cancer. Alors que j'ai jamais su que j'avais un cancer.
Oh boy.
Et là, j'ai un rendez-vous le 14 mars seulement. Il n'y a pas moyen de faire devancer.
Et vous avez un cancer. Est-ce que c'est un cancer un cancer du foie à ce moment-là?
Aucune idée. Je ne sais rien. Sauf que le secrétaire m'a dit que j'avais un cancer.
Oh, Madame Catherine.
Alors, c'est ça. Je suis pris avec ça et...
Puis là, vous avez de l'inquiétude. Imaginez-vous attendre jusqu'au 14 mars pour savoir exactement ce que vous avez. Ils peuvent vraiment pas vous voir avant. Ça n'a pas de bon sens que vous viviez cette incertitude-là.
C'est un médecin de... Je dois voir un médecin de l'hôpital Saint-Luc que je ne connais pas. Je suis jamais allé à Saint-Luc. J'ai juste envie de me présenter à l'urgence à Saint-Luc pour voir quelqu'un pour savoir ce que j'ai là.
Ah, je vous comprends. Catherine. Faites ça. Je sais pas quoi vous dire, mais vous pouvez pas vivre dans cette attente-là pendant tout ce temps-là. Ça n'a pas de bon sens, là, qu'il vous l'ait appris de cette manière-là d'abord, puis que vous soyez obligé d'attendre. Relancez la secrétaire qui vous a appelé et dites-leur que ça n'a pas de bon sens, là. Mettez de la pression, Catherine. Je suis désolé, mais je vois pas autre chose, là.
C'est ce que je fais, là. Je mets de la pression. Merci beaucoup.
Lâchez pas, on est avec vous, là. Michel qui nous appelle maintenant. Bonjour, Michel.
Bonjour, mon cher monsieur, ça va bien?
Ça va, je vous écoute là.
Félicitations pour votre émission. C'est pour une information, j'ai été opéré une deuxième fois à mon genou. J'ai été opéré l'année passée, puis en juin dernier, il m'a avisé que le genou qui m'a mis complet n'était pas la bonne, trop gros pour ma jambe.
Oh boy, OK.
Donc, j'ai été réopéré en novembre dernier. Mm-hmm. Puis là, j'attends le prochain rendez-vous au mois de mai.
OK, ils se sont trompés avec la prothèse, c'est ça?
Ils sont trompés avec la prothèse totale.
Eh, boboy. Pensez-vous exercer un recours?
Ou je prévois aller au recours après la finalisation, là.
Oui, c'est ça. Parce que si, au terme de la deuxième opération, les choses se passent bien, c'est plus facile à ce moment-là, peut-être, d'accepter. Mais, ouais. C'est quand la deuxième opération, dites-vous?
Novembre dernier.
OK. Fait que là, vous êtes en attente de savoir, dans le fond, si tout se passe bien, mais est-ce que vous sentez que ça s'en va sur la bonne voie?
Ça s'en va sur la bonne voie, sauf que j'ai... je me pose des questions un peu.
OK. Ben bon courage, Michel. Bonne chance avec la suite.
Merci, au revoir.
OK. Ben qu'est-ce que tu veux? M'a dire, hein, quand tu te compares, tu te consoles. Hein? Des fois, on trouve que la vie est dure, là, mais... Il y en a qui l'ont plus tough que nous autres. On va s'arrêter au retour une histoire d'héritage.